too late.
Sure. Eat this.
Bonjour, bonsoir, c'est Manu Minel et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. On vous parle de ces albums de grunge, de dance ou de R&B qu'on a enregistrés sur cassette ou sur CDR. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Dangerous de Michael Jackson, sorti le 26 novembre 1991. C'est le 8e album studio de Michael Jackson qui sort 4 ans après Bad. On peut se demander si ce n'est pas le dernier des grands albums de Michael. En tout cas, c'est un disque complètement fou à plusieurs points de vue. Il y a des invités super prestigieux, des moyens de production et de promotion énormes. C'est un des disques les plus vendus au monde et aussi un des plus piratés de l'histoire de la musique. On a choisi de ne pas vous parler de ses affaires privées de Michael Jackson et du documentaire Living Neverland qui est sorti, car tout a déjà été dit. Nous voulons nous concentrer sur la musique et sur l'artiste. L'album Dangerous, on vous en parle maintenant, avec trois éternels adolescents. Fanny Gignès.
Salut.
Olivia Goda.
Hello.
Et monsieur Greg Cook de 2 heures de perdu et Culture 2000, qu'on aime beaucoup beaucoup.
Salut.
Merci mille fois Greg.
Je t'en prie.
En plus, on s'est carrément invité chez toi à Paris pour cet épisode, ça met pas
ouais,
du tout la pression.
Ouais, mais il y a signe Alléluia, alors tu vois, je suis un peu content quand même, quoi, tu vois.
ça fait plaisir. Alors pour démarrer cette émission et se mettre tout de suite dans le bain, on va se réécouter les 14 titres de Dangerous en mode Fast and Furious. Accrochez vos ceintures.
Bye.
Donc j'espère que ça vous a plu. Cet album, alors, ça vous évoque quoi? On va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Fanny.
Bah, pour moi, l'album Dangerous, c'est avant tout le single que tout le monde connaît, Black or White, et aussi le clip de ce single que je me rappelle très clairement avoir vu quand j'étais enfant à la télé et qui me rendait dingue parce que j'étais petite et je ne comprenais pas toute cette séquence au début qui est super longue à démarrer avec ce gamin qui rend ses parents fous. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit merdeux là? Pourquoi il.
C'est Macaulay Culkin, on se doutait bien qu'il allait pas non plus être très sympa. Quoi.
En fait, j'ai un souvenir très clair de ce clip que je détestais parce que je le trouvais insupportable.
Parce que t'avais une intro qui durait facile 30-40 secondes, t'en pouvais plus quoi.
Oui, et encore, je sais pas de quelle version passait à la télé, combien de temps ça durait, mais c'est juste, il y avait ce truc anormal. Un clip de musique doit démarrer avec la chanson, et puis tout de suite,
c'est pour Michael.
Le coup, voilà, pour le coup, le morceau après était cool, mais voilà, c'est personnel.
Ok, et toi Olivia, t'en as pensé quoi?
Ben moi, je me souviens très bien de la sortie. J'étais à l'école primaire et Michael Jackson, c'était un truc que les garçons écoutaient. C'était pas un truc que les filles écoutaient. Et si tu voulais être un petit peu pote avec les garçons, il fallait écouter Michael Jackson. Donc j'avais décidé d'écouter Michael Jackson. Mais c'était complètement artificiel parce que c'est pas tout à fait. Moi, j'écoutais les Spice Girls, mais j'avais envie d'être pote avec les garçons, voire plus si affinité. Et je m'étais dit que finalement, c'était une bonne option d'écouter Michael Jackson. Ce qui s'est avéré désastreux à la fin parce que j'ai pécho personne. Hein. Voilà.
Donc un petit peu à retardement parce que les Spice Girls, on est plutôt sur la fin des années 90, on est sur 96, 97, je crois.
Oui, non, mais après, il y avait eu History aussi, qui avait remis une. C'était un best-of, ce qui avait remis une couche en même temps que les Spice Girls. Mais c'est vrai que Dangerous était revenu à cette époque aussi à cause d'History. Et voilà, pour moi, c'était une musique de garçon. Voilà.
et toi, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, ce que j'en ai pensé, ben, moi, j'en pense encore du bien. On sera peut-être pas tous d'accord, mais j'ai un souvenir d'écouter cet album quand j'étais avec mon père le mercredi après-midi. Il bossait pas et on jouait à Mario 3 avec mon père. Et comme il voulait pas entendre la musique de Mario 3 pendant tout le temps, il mettait le CD parce qu'il venait de s'acheter en plus une platine CD à cette époque-là.
Et
il
mettait platine laser.
Laser, exactement. Et il mettait le CD de Michael Jackson et donc je l'entendais beaucoup. Et quand on prenait la bagnole aussi, j'entendais aussi beaucoup Michael Jackson. Après, je l'ai oublié pendant très longtemps cet album parce que j'écoutais plus Michael Jackson et je suis revenu, je sais pas, quand j'avais 25 ans dessus, jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai fait des études d'ingé son et il y avait des trucs qui étaient incroyables dedans et à l'école on me remettait cet album et il fallait faire des montages sur Black or White et tout, c'était très très dur, très 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 dur. Et donc j'ai réécouté Michael avec un point de vue, avec un œil de pro, enfin pro entre guillemets, je sais pas non plus.
professionnel.
Et j'ai redécouvert tout ça et j'ai redécouvert la musique et en même temps les prouesses techniques qu'ils avaient fait. Moi, je m'en lasse pas, même s'il y a certains trucs qui ont vieilli dans cet album Dangerous. D'autres albums de Michael ont moins vieilli, mais il est quand même bien. Il est quand même bien.
Quand même, c'est un peu vieilli pour toi. Ouais. Et vous en avez pensé quoi, Fanny, Olivia? On va commencer par toi, Olivia. 20 ans après, est-ce que c'est un disque que tu écoutes encore, que tu l'as encore dans ton Walkman ou pas?
Non, je l'écoute plus. Je le trouve un peu sirop, chamallow et tout ça. Après, évidemment, c'est lié à des souvenirs. Ça, c'est indéniable. Donc, on l'écoute plus pour se faire plaisir. Quand tu es en voiture avec des potes, en vacances, sur la route, tu as envie de gueuler un coup, tu passes un petit coup de Michael Jackson, mais c'est clairement pas ce que j'écoute au quotidien. Ça reste un très très bon album, ça c'est sûr et certain, mais c'est un peu vieilli. Voilà, je suis d'accord avec Greg pour le coup.
Moi je l'ai dans mon Walkman. Hein. Enfin,
je n'écoute que des cassettes.
Je tiens à préciser,
c'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs.
j'ai compris que j'étais vieux quand j'ai utilisé le mot Walkman en présence de personnes qui étaient jeunes. Ton quoi? Mon Walkman, c'est comme ça qu'on disait à l'époque parce que je dis mon Walkman pour mon téléphone. Hein, tu vois,
ouais, ah oui, d'accord.
Ah oui, ah oui.
Enfin, pas pour téléphoner, mais quand j'écoute de la musique, ça devient un Walkman quoi.
Ah oui, d'accord, c'est en mode baladeur.
Voilà,
mec a envie de se faire réinviter à Radio Cassette en fait. Ouais,
écoute, tu es le bienvenu.
Bah, c'est noté. Je serai la semaine prochaine.
Et toi, Fanny, ça, 20 ans plus tard, ça donne quoi?
Moi, la réécoute, je l'ai trouvée très, très difficile. Déjà, je me suis rendu compte que sans doute, alors je me rappelle aussi que mon père avait un certain nombre des vinyles de Michael Jackson. Il y avait celui de Thriller qui trônait dans le salon, clairement. Il y avait Off the Wall aussi, sûrement. Mais peut-être qu'à la maison, on n'avait pas Dangerous. En tout cas, je me rappelle qu'on avait le double compact disc de History. J'ai eu les autres, mais je ne sais pas pourquoi. Dangerous, en fait, il ne m'a pas marqué particulièrement. Et là, la réécoute, je l'ai trouvé atroce. Alors, je dois avouer que j'ai écouté pour la première fois l'album avec un petit mal de tête. Et les quatre premiers morceaux sont juste inaudibles.
Tu
parles de Jam qui ouvre l'album.
Les quatre premiers morceaux, je te promets, je voulais pas couper, je voulais pas zapper parce que on devait préparer un épisode dessus, donc je me suis dit je les écoute en entier,
c'est
dans
sympa,
l'ordre,
t'as
machin, et c'était une torture. Et arrivé le cinquième, Remember the Time, tu fais ah voilà, ah,
c'est le pire.
All Michael is back,
c'est le pire.
Tout d'un coup,
c'est un peu dur
hein,
comme jugement.
Et finalement, en même temps, l'album, je l'écoute, je le trouve assez schizophrénique parce que il y a. Alors, à mon sens, du coup, tous ces premiers morceaux super agressifs en termes de rythmique, avec les bruits très synthétiques, très froids, très robotiques. Et voilà, et il se termine sur le morceau de Sauvez Willy. Enfin, il se passe quoi dans, le mec n'a aucune logique, l'album est incohérent. Et ce truc-là, c'est un album culte.
C'est surtout une ultra cohérence, c'est-à-dire qu'il faut étaler un petit peu sur tous les marchés commerciaux, c'est-à-dire à la fois Sauvez Willy, à la fois le truc urban, à la fois l'ancien Michael Jackson. Faut vraiment plaire à tout le monde et faire le maximum pour que cet album touche le plus de monde. Donc je comprends un peu ça, mais c'est vrai que les premiers morceaux sont peut-être plus durs, mais ils sont quand même intéressants, je trouve.
Alors, justement, l'histoire de cet album, on va y revenir. L'histoire d'un succès, un album ultra produit avec beaucoup de moyens. Tu peux nous en parler, Olivia ?
Alors, je vais vous en parler un petit peu. Donc, on est en 91. Mike Jackson, c'est déjà le roi, la star absolue. Il y avait eu les Jackson 5, il y avait eu le Thriller, il y avait eu Bad, qui ont battu tous les records de vente dans le monde. Donc, Mike Jackson, il sait qu'il est obligé de revenir avec quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus marquant. Et évidemment que la sortie de Dangerous, ça va être pharaonique. Donc, quelques chiffres rapidement. La première diffusion télévisée du clip Black or White, c'est le 14 novembre 1991. C'est diffusé en simultané dans 28 pays avec un record d'audience de 500 millions de téléspectateurs.
Il a break the internet avant Kim Kardashian.
c'est fou, je sais pas si aujourd'hui les JO, si la Coupe du Monde fait ça quoi.
C'était combien pour marcher sur la Lune de,
beaucoup.
Voilà, j'essaie tout le monde là.
Pourquoi il est venu lui?
Je sais pas moi-même. Hein.
C'est pour la promo d'un nouvel épisode sur la Lune, c'est pour ça. Écoutez Culture 2000.
En 24 heures, Black or White a été ajouté à la playlist de 96% des 237 stations radio classées au top 40 des États-Unis. Donc en gros, il a trusté toutes les radios des États-Unis. C'est hallucinant. Personne n'avait fait ça avant. En France, pour la promo, Michael Jackson réunit 90 journalistes à bord d'un Concorde et il dévoile l'album Dangerous dans le Concorde. Aujourd'hui
c'est ouf quoi.
Personne, un, parce qu'il n'y a plus de Concorde. Mais deux, ça doit être super désagréable d'écouter un album dans le Concorde. Ça doit faire un bruit de malade. Et genre, t'écoutes mon album. Non, j'entends rien. Désolé, je prends plus le Concorde.
Au décollage, t'attaques avec Jam quand t'en peux plus quoi.
Ah ouais, mais c'est clair, t'es mort quoi.
Il a pour sa tournée un énorme contrat publicitaire avec Pepsi. Un truc, mais démentiel. C'est hallucinant, des chiffres pharaoniques. Et Black or White, en France, devient bizarrement son premier single numéro 1 dans les classements. Jusqu'alors, il n'avait rien classé en numéro 1. Donc, c'est vraiment Black or White qui, en France, va faire la grosse différence. Il reste 2 semaines numéro 1. C'est hallucinant. Et justement,
c'est pas beaucoup, 2 semaines en même temps.
Ouais, mais jusqu'à présent, il n'y arrivait pas.
La Rousseau a dû faire plus hein, à l'époque.
Ah oui, mais tout de suite.
Moi, j'aurais été Michael, je serais 4 semaines.
Il aurait pu faire un featuring avec la Rousseau aussi, ça aurait été une
c'était
bonne
prévu,
idée.
C'était prévu, mais elle n'a pas duré assez longtemps.
J'ai un truc à placer là-dessus, c'est qu'il y a quand même 10 millions qui ont été mis alors sur le budget promo plus production sur l'album. Je ne sais pas qui se permet ça aujourd'hui, il n'y a que Michael Jackson qui est capable de faire ça. Il faut le payer le Concorde. Hein. Je ne sais pas combien coûte le billet en solo passager, mais
c'est vrai qu'on était juste avant la chute de l'industrie musicale. Ça se portait le mieux, donc c'était le moment où ils pouvaient tout se permettre, et surtout lui. Si Michael Jackson ne peut pas se permettre ça, personne ne pouvait
le faire. Personne ne le fait. Il n'y avait que lui. Et avec les premiers succès arrivent les premiers scandales. Et je voudrais qu'on parle plus précisément en fait, du clip de Black or White. Et je vais notamment passer la parole à Fanny qui a épluché ça et qui a vraiment disséqué le clip dans tous ses détails.
Oui, enfin donc ce clip, on en parlait tout à l'heure, il démarre avec une séquence très cinématographique dans laquelle on voit Macaulay Culkin en train d'écouter du rock très très fort, de la guitare qui rend ses parents fous et s'ensuit.
Il fait quand même décoller son père avec un coup de guitare. Ouais.
Voilà.
Pour atterrir en Afrique.
En orbite.
Des enceintes
en
loose-dé dans le salon et il met son très très fort et son père est propulsé en orbite et le père atterrit au milieu de chasseurs Maasai en train de chasser le lion en Afrique. Et ensuite s'ensuit une énorme séquence où Michael Jackson chante avec et danse avec tout des populations, on va dire, du monde entier. Mais qu'est-ce qui a fait scandale à l'époque? C'est la fin du clip dans laquelle il y a tout un tas d'effets spéciaux super avant-gardistes, notamment le morphing. Et Michael Jackson se transforme.
Morphing qui a quand même coûté la bagatelle de 10 000 dollars la seconde. À l'époque, c'était le chiffre qu'on entendait partout.
Et c'était le truc de ouf. Parce que
ouais, c'était un truc de ouf, honnêtement.
Tu avais Terminator 2, c'était un des premiers à utiliser ce genre
de techno. 91 aussi.
91 ouais. aussi.
Et c'est tocard par rapport à ce qu'il fait. Parce que là, on switch de tête. Il y a Michael Jackson qui secoue la tête et il se transforme en meuf. C'était dingue. Moi, je me rappelle de ça. C'est vraiment dingue, quoi.
Mais du coup, à la fin du clip, il se transforme en panthère noire et cette panthère symbolise un peu le côté obscur de la force de Michael. Petit clin d'œil à Ayam. Et tout d'un coup, tout le message un petit peu de tolérance envers la population devient un message de dénonciation politique contre le racisme subi notamment souvent par les Afro-Américains aux États-Unis. C'est une séquence où on voit Michael Jackson danser dans une arrière-cour
d'une nouvelle invités,
voilà,
un
une ruelle avec une voiture. Et en fait, il y a un déchaînement de violence. Il y a une voiture, il casse les vitres, il prend un pied de biche, il casse tout.
Ce qui est complètement... Ça vient de nulle part, ce truc. C'est vraiment la séquence what the fuck. Parce que qu'est-ce qui lui prend?
Qu'est-ce qui se passe pour Bambi, qui est le mec le plus gentil du monde, et tout d'un coup, il se met
il a jamais rien cassé.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Je pense que la personne qui sera le mieux à même de nous expliquer ce qui se passe, c'est John Landis, le réalisateur lui-même, puisqu'on vous a retrouvé un petit extrait d'un reportage diffusé sur France 2, dans lequel John Landis, justement, raconte ses frayeurs que Michael Jackson lui a causées sur le tournage. On écoute.
On était en train de filmer cette scène sur la voiture et il improvisait. Et à un moment donné, il ouvre sa braguette, il met sa main et j'ai dit « Coupez !»« Michael, qu'est-ce que tu fous ?»
Il m'a dit « Pourquoi tu
me dis ça ?» Moi je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « Mais Madonna le fait, Prince le fait !»
You're Mickey Mouse, you're not Madonna.
Et là je réponds « T'es Mickey Mouse, t'es pas Madonna ou Prince, tu peux pas faire ça !»
Managers came down and everything.
Alors on s'est engueulé. It wasn't angry. Les managers ont dû venir. Il n'était pas fâché, mais moi j'ai dit non, je ne filme pas ça. On a fini par tourner et regardez ce qu'on a fini par faire. C'est quand même assez drôle. Il touche ses boules et le reste.
Unzip his fly, but you know what he does? He zips up his.
Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a remonté la braguette.
Violente et sensuelle, la fin du clip sera censurée en partie aux États-Unis. Une transgression qui serait pourtant au fondement de son art.
Comme le dit John Landis, Michael Jackson touche ses boules et tout, ce qui, alors, j'imagine, n'est pas très mainstream et suscité.
Mais c'est parfait, vrai qu'on aurait même. Yeah, c'est difficile d'imaginer le clip justement à 10 000 dollars la minute qui finit par Michael Jackson qui fait ça. Enfin, tu vois, c'est un peu, c'est pas très cohérent non plus. Quoi.
C'est ça, c'est qu'apparemment la séquence est improvisée et donc le réalisateur lui-même se dit
comprends
mais
pas.
Qu'est-ce qu'il fait le mec en fait.
Et alors, ce qui est terrible, c'est que effectivement Michael Jackson, c'est une star hallucinante, mais c'est surtout le héros des enfants à l'époque. La Fox décide donc.
Pour sûr
sans mauvais jeu de mots. La Fox diffuse donc en simultané dans les 28 pays et le lendemain, ils ont des courriers, mais incendiaires, des coups de fil de parents qui disent « Mais vous venez de traumatiser mon gamin, il vient de voir Michael Jackson se toucher l'entrejambe 17 fois de suite. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ?» Michael Jackson finit par présenter ses excuses en disant qu'il ne voulait pas choquer, c'était pas le but.
C'est pas fait exprès.
Je voulais pas vraiment.
C'était, voilà, donc c'est vraiment une séquence. Maintenant, quand on la regarde rétrospectivement, on se dit ce mec est complètement instable.
Ouais. Moi, j'ai pas vu ça, je découvre. C'est,
ah,
c'est
bah,
incroyable.
Je t'invite à le regarder ainsi ouais. que.
Bah, c'était très vite censuré, je pense qu'on
bah
est
ouais,
passé tous à côté. Hein.
Ouais, ouais.
Et alors, au niveau de la critique de Dangerous, certes, on admire la prouesse technique, l'artiste qu'il est, mais très vite, la presse spécialisée commence à percevoir ce que cherche à faire Michael Jackson, à savoir se racheter une image. Depuis Thriller, en fait, il y a de nombreuses rumeurs à son sujet. Il se serait fait décolorer la peau.
Non, c'est faux.
Moi, je le connais bien. C'est faux.
Les chirurgies, c'est faux.
Il m'a dit que non. Je le connais, il m'a dit que non.
Il vivrait dans un caisson pressurisé, ou enfin, je me rappelle J'adore. Plus des termes techniques, mais
ouais,
enfin,
pressurisé, je crois qu'on est bon.
Je
hein.
crois que c'est ça. Il serait.
Monsieur Lune, c'est ça?
Je pense, oui. Je sais pas, mais je pense que oui.
On va demander aux frères Bogdanovic. Ils sont au point là-dessus.
Et donc, voilà, on va dire que cet album, il prend à bras le corps ses rumeurs et il se dit que je sois black ou white, finalement, on s'en fout, peu importe. Que je sois gay, parce qu'il y avait aussi cette rumeur avec notamment le titre In the Closet, c'est pas grave.
Ce qui veut dire, mets ça au placard, on n'en
oui,
parle
voilà.
pas, quoi.
Et puis surtout, l'expression sortir du placard chez les gays, c'est effectivement faire
c'est
son coming
out
ouvertement. Et lui, justement, ne le fait pas, puisqu'on ne sait pas s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Mais en tout cas, il décide d'assumer les rumeurs et de récupérer la parole au sujet de ces rumeurs. Et c'est vraiment ça. Moi, je me souviens particulièrement aussi du je ne sais pas si vous vous rappelez, du clip de Remember the Time, qui était avec Eddie Murphy et Iman.
Et Magic Johnson.
Et Magic Johnson. Ça se passait en Égypte ancienne. Et,
ah oui, 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 voilà. Je me rappelle, oui.
Et Michael Jackson était une espèce de mage qui venait séduire Iman, qui s'ennuyait avec son mari Eddie Murphy. Mmh. Et à l'époque, déjà, je me demandais comment Michael Jackson allait réussir à séduire Iman, lui qui était quand même complètement asexué.
Un freak.
Qui ne correspondait absolument pas à une image de virilité ou quoi que ce soit. Et il essaye d'aller sur ce terrain-là, ce qui lui va absolument pas, parce que Michael Jackson, c'est Bambi, c'est le mec qui, dans Thriller, mange ses pop-corns en effleurant l'épaule de sa copine, alors qu'il ne va jamais vraiment plus loin. Et en fait, voilà, on comprend très vite que Michael Jackson, il a envie de se racheter une virilité, il a envie de se réaffirmer en tant qu'homme.
Donc, il se touche la braguette 17 fois.
Et il se transforme en pharaon. Ah bah voilà, c'est bon, c'est réglé. C'est un pharaon qui se touche la braguette, c'est bon, c'est viril. Quoi, super.
Et j'ai trouvé un commentaire de John Pareles de The New York Times qui parle des paroles des chansons d'amour, qui dit que selon lui, elles seraient plus basées sur des recherches démographiques que sur l'expérience ou l'imagination. Et je trouve que c'est quand même assez drôle parce que, en gros, Michael Jackson cherche à parler d'amour, mais tout est théorique et t'as l'impression que tout est un peu fake. Finalement.
Ça a été un peu écrit pour lui, quoi.
C'est ça, voilà.
Alors, il y avait aussi le clip de In the Closet avec Naomi Campbell.
Ouais.
Là
ouais.
encore, et il la chauffe, machin. Enfin,
ah,
c'est
ouais.
un petit peu bizarre. Il la chauffe, mais pas
vraiment.
Il
se passe rien dans le clip.
Danser,
il la chauffe et il se passe rien. Alors, c'est bizarre quand même.
C'est, putain, c'est con, quoi. Il a raté l'occasion.
Ce qui me choquait, moi, c'est qu'il est un peu en mode gypsy espagnol.
Pourquoi
tu
trouves
ça vient.
Non, mais il a juste
Kenji
un Marcel
Jackson.
Blanc.
Il est à Santa Monica ou je sais pas quoi. Enfin,
c'est un clip qui est hyper jaune. Et,
enfin, ouais, non, le clip
ça.
Est noir et blanc et c'est réalisé par Herbrit, qui est un photographe de mode célébrissime. Donc, encore une fois, ça montre les moyens que
ouais.
met Jackson au service de sa promo.
Et
de façon, sur tous les clips, t'as à chaque fois des
ah bah,
invités
des
de ouf, t'as Michael Jackson.
Slash
de
Guns N' Roses aussi.
Ah ouais,
ouais
c'est. Je crois que t'as eu 10 clips
sur les 14 morceaux. Bah, autant faire les 14. Et
puis, un film.
Tu sors ta cassette VHS pour Noël et tout.
Bah, c'est pas bête. Hein. Moi, franchement, je la regarderai en tout cas.
Bah, c'est Beyoncé qui a fait ça après, qui a sorti un clip pour
une
chacune.
Une sextape. Ah non, c'est rien.
Ok, bah écoute, c'est plutôt clair sur le personnage. On commence à y voir plus clair. Puis il y a cette pochette un peu mystérieuse. On parlait de Pharaon tout à l'heure. Il y a un peu de ça, non, dans la pochette, Fanny?
Oui, oui, totalement. Bah, on parlait surtout du côté roi de la pop qu'il était déjà au moment où l'album Dangerous est publié. Jackson, c'est une superstar planétaire. Et on se dit, ouais, pour la pochette de son album, il va pas y aller avec le dos de la cuillère. Et effectivement, pourquoi faire simple, pourquoi faire minimaliste quand on peut faire rococo, quand on peut faire bling, quand on peut faire grandiloquent. Donc Jackson, pour c'est l'artiste de tous les extrêmes, il va encore une fois nous le prouver avec cet artwork qu'il a commandé au peintre américain Mark Ryden, qui à l'époque faisait carrière en tant qu'illustrateur commercial. Il avait déjà signé une pochette pour Aerosmith et quelques années plus tard, il en a fait une aussi pour les Red Hot Chili Peppers.
Celle des Red Hot, c'est celle de One Hot Minute, avec la petite fille au piano.
Ouais,
mais c'est vrai qu'il y a un truc, il y a un truc qui se ressemble en fait. Enfin, en tout cas, c'est très très chargé, quoi, comme One Hot Minute. C'est vrai, c'est vrai.
Entre temps, Ryden c'est devenu le chef de file d'un mouvement pictural très populaire qui s'appelle le pop surréalisme. On voit son travail dans des musées et des galeries du monde entier, et ses œuvres atteignent la somme rondelette de 1 million de dollars.
Rien que ça.
Au début des années 90, il n'en est pas là, mais il n'a pas de main gauche et donc il a un petit potentiel.
Aussi un gros compte en banque.
Pour sa collab avec MJ, Mark Ryden va réaliser une acrylique sur toile, un moyen format qui a été exposé récemment au Grand Palais, pour ceux qui auraient vu l'exposition On the Wall.
À Paris.
Exactement. Et le tableau a pour titre King of Pop. C'est une pièce qui est entrée depuis au Panthéon des albums covers les plus célèbres du monde. Et j'imagine que vous avez tous en tête cette image de fête foraine, truffée de symboles surréalistes, des références à la pop culture, à l'histoire de l'art, le cirque Barnum, l'écologie et la biographie même de Michael Jackson qu'on voit dans un coin de la pochette lorsqu'il était enfant. J'aurais bien aimé tout vous décrire dans les moindres détails, mais ça serait une entreprise à peu près aussi vaine que de citer la liste des personnalités présentes sur la pochette de Sgt. Pepper des Beatles. Donc on a malheureusement pas toute la journée.
Il s'inscrit dans une filiation, il essaye de prouver qu'il... C'est le roi, finalement. C'est ça.
Exactement.
Fait,
et
message.
Je pense qu'il a dû faire un mood board en disant ah, je veux ça. Alors, je veux Napoléon, je veux Ingres, je veux Botticelli, je veux Bruegel, je veux Bosch, je veux mon petit singe.
C'était à l'époque où il y avait son petit singe. Comment il s'appelait le petit singe de Michael?
Bubble.
Bubble, voilà. Bien, ouais.
On a Bubble. On a tout. On a un petit garçon qui a la tête moitié black, moitié white pour faire.
Elle est assez fascinante à regarder. Moi, je la regardais beaucoup. Enfin, j'avais la cassette comme Manu d'ailleurs qui l'a apportée aujourd'hui.
Alors je l'ai apportée ce soir. Et alors ce qui est marrant, c'est que moi, c'est toujours la cover que j'ai connue sur cassette. On est sur un format portrait rectangulaire.
Ouais.
Et du coup, en fait, il nous manque une partie de l'image. Donc c'est génial. En réécoutant cet album, je suis redécouvert la pochette en entier, qui donne encore plus d'indices. Quoi. Ouais.
Mais alors le truc intéressant avec cette pochette, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'elle illustre de manière parfaite, en fait, la manière dont Michael Jackson a compris avant tout le monde combien la dimension visuelle est capitale dans l'œuvre d'un artiste. Il a construit son propre mythe lui-même par l'image.
Ça, ouais.
On a premièrement des chorégraphies hyper marquantes avec des pas de danse de génie comme le moonwalk, le sidewalk ou bien le lean qui est
ce
fameux. Le lean c'est un effet spécial. C'est exactement
ça.
Quand il se penche avec des chaussures piégées, enfin ou je sais pas piégées mais
avec du plomb dedans.
Il peut se pencher à 45 degrés en avant sans tomber et revenir à sa place initiale. Il y a aussi des costumes de scène et des accessoires iconiques. Coucou, les chaussettes blanches dans les mocassins noirs, le gant à paillettes, la veste militaire avec les doubles baudriers dorés. Ça, c'était justement la période Dangerous. Je sais pas, les sparadraps sur les doigts, le chapeau
noir.
C'est
sa marque.
Les sparadraps, pourquoi les sparadraps? Trop bizarre.
Mais c'est trop cool, mec, t'as des sparadraps.
Il avait les doigts qui tombent comme son nez.
Mais alors oui, c'était une des rumeurs. On disait qu'il avait fait tellement de chirurgie esthétique que sa peau commençait à se casser la gueule et qu'il avait des sparadraps sur le nez. Sur les doigts. Moi, je me souviens, c'était vraiment...
Mais en attendant, tous ces accessoires, tous ces détails de son look, c'est des choses que les fans ont pu piquer et se réapproprier. Et j'imagine, sincèrement, autour de la table, dis-moi, il n'y a pas un de ces trucs que vous avez essayé de pomper à un moment ou à un autre?
Ah si, moi, j'ai refait le moonwalk plusieurs fois. J'ai jamais réussi, je crois.
Moi, j'ai regardé des vidéos pour faire le moonwalk et à un moment, j'y arrivais un petit peu. J'étais très, très content de moi. Je le montrais à tout le monde et tout le monde disait, non, mais c'est nul. Mais moi, j'étais très content, quoi.
Mais entre ça, et alors, pour le coup, je me rappelle aussi clairement, quand j'étais enfant, de ce pas de danse, en fait, où il se met sur la pointe des pieds en se touchant entre jambes.
Ouais, mais celui-là, il est mortel.
Mais on le faisait tous, mais sauf qu'on était
on visualise ça.
Mais on le faisait tous dans la cour de récré et en fait sans avoir conscience de la portée de ce qu'on était en train de faire.
Oui,
et moi
c'était...
je me rappelle que petite fille, j'étais en train de me toucher l'entrejambe en train de bref.
Moi, je me rappelle de ça, on disait Ousbed, mais moi je pensais que ça s'écrivait O U E B E D quoi. Mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Ousbed.
C'est une ville au Maroc.
C'est ça.
Enfin bref, et donc voilà, donc les clips, les chorégraphies et aussi les clips devenus cultes, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Après, il y avait le clip, le chef-d'œuvre absolu, qui est le clip de Thriller, mais qui faisait partie d'un album précédent. Là, pour Dangerous, bah, on l'a dit, voilà, il y a 10 clips. Que d'ailleurs, Michael Jackson, justement, j'ai vu une interview où en fait, il refuse d'utiliser ce terme. Il déteste le terme de clip.
Des œuvres.
Modestement.
Non, il utilise systématiquement l'appellation de court-métrage.
Ah oui, c'est ah ça.
Ouais, mais en même temps, tu vois.
C'est quand, des productions, quoi.
Ouais, c'est des trucs. Enfin, c'est des courts-métrages, vraiment. Ça dure 15 minutes, donc au bout d'un moment, c'est un vrai court-métrage. Ouais. Il y a avant le clip, après le clip, enfin, il se passe des trucs. Moi, je suis assez d'accord avec ça et je trouve ça super cool aujourd'hui. Hein.
Et c'est les putains de cinéastes à chaque fois qu'ils les ont fait, donc forcément, on l'orne plutôt du côté du cinéma que de la promo pure.
C'est sûr que Jules, il fait pas des courts-métrages, quoi.
Je tiens à saluer aussi le fait que tu as rencontré Mac Raiden, c'était il y a quelques années quand elle est à LA, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Fanny avait un projet de bouquin là-dessus.
Oui, bah bon, je pense que c'est une grosse anecdote, mais j'ai écrit deux mémoires de recherche sur le pop surréalisme, le mouvement artistique dont il est chef de file, et j'ai eu l'honneur, après 8 ans de demande acharnée, finalement, un jour de réussir à l'interviewer.
Wow, ouais. Génial.
Bravo, clap, clap.
Pour moi, c'était quand même
c'est-à-dire que
tu es
à un degré de Michael Jackson.
Mais tu sais que je pense tout le temps à ce genre de... Je suis à un degré de Barack Obama, de tout le monde.
Ouais. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ferait ce soir s'il était encore là?
Michael, il faisait ouh.
Je me suis dit, si t'es à 1 degré de Michael Jackson, t'es quand même à 2 degrés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités américaines aussi. Donc franchement, là-dessus, moi je dis chapeau.
Ouais,
bravo.
Ouais, bravo.
Merci d'être avec nous ce soir. voilà, on a parlé de la pochette, on a parlé de la promo, on pourrait faire un tour sur la production de l'album. On a parlé de 10 millions, on a parlé d'une production un peu hors norme et d'un gros changement également musical dans la carrière de Michael.
Bah oui, bah je suis content qu'on parle un petit peu de musique parce que bon, cet album, c'est avant tout de la musique. C'est pour ça qu'il se vendait en tout cas. Moi, je vais vous parler de la production, comme tu viens de lire, et puis du son également. Alors, comment cet album a été fait? On l'a dit un petit peu avant, bah, il a été fait avec beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais pas que de l'argent, il y a aussi énormément de musiciens. Quand on regarde les crédits, c'est impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de techniciens. Il y a notamment Bruce Weden qui fait partie de l'équipe de Michael d'avant, qui avait été ramené par Quincy. Donc, il y a pas mal de gens qui font partie de l'équipe de Michael d'avant. Voilà, mais là, on a des petits nouveaux. On a notamment Teddy Riley qui est à la réalisation, mais on reparlera de Teddy un petit peu plus tard. Vous l'avez cité avant, les filles, il y a plusieurs albums avant Dangerous, et moi, je vais en citer 3. C'est Bad, Thriller et Off the Wall qui ont été réalisés avec Quincy Jones. Et Quincy Jones, au moment où il arrive, il casse un petit peu le style Motown de Michael qui, avant, faisait plutôt R&B, disco, tout ça. Et Quincy, il va vraiment moderniser le son de Michael, simplement parce qu'il va utiliser des sons plus modernes. Enfin, c'est un petit peu la mode à l'époque. Il va utiliser de plus en plus de synthés, notamment le mini Moog. Je ne sais pas si vous voyez la basse de Thriller qui est faite avec un gros mini Moog. Les mini Moog, ouais.
Un gros mini Moog.
Ça, c'est pas bien, quoi.
Non, ça, c'est pas Thriller.
Pardon, j'ai dit pas.
Là, t'as fait Billie Jean. Jean.
Oh merde, je suis désolé.
Là, t'as fait Billie Jean. Non, mais c'est vraiment...
Jean-Michel à peu près.
Ouais, c'est un synthé ultra célèbre qui a été utilisé par tout le monde et qui fait des basses fabuleuses. Après, quand on rajoute justement sur ces 3 albums les arrangements de Quincy, ça, on obtient un gros, gros son que moi, personnellement, j'adore. Mais non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1991, Dangerous. Et coup de théâtre, Quincy, il est remplacé par Teddy Riley. Alors, personne ne le connaît.
Teddy.
Sauf que si, tout le monde le connaît parce qu'en fait, c'est le papa de la New Jack. La New Jack, c'est quoi? On va en écouter un extrait tout de suite. Ouais, ça donne pas spécialement envie, hein. Ce qui est assez drôle, c'est que là, on est en train d'écouter Janet Jackson. C'est un album de 1986. Et Michael Jackson sort Bad en 87. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau New Jack, il est presque plus en retard que sa sœur.
Ouais.
Alors, on va parler un petit peu du style. La particularité, c'est qu'on a une caisse claire, c'est cet élément de la batterie, qui est vraiment à la base du rythme et à qui on laisse beaucoup, 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 beaucoup de place et qui claque à mort. En fait, c'est-à-dire qu'on lui laisse tellement de place que parfois, on va carrément faire un vide au moment où il y a la caisse claire qui arrive pour que ça rythme le morceau et que ça prenne vraiment le dessus. Alors, dans cet album, Dangerous, ils utilisent aussi beaucoup de samples parce que c'est l'époque aussi des samples. Et bon, ça va être un petit peu le secret, mais comme c'est un album à 10 millions de dollars, ben on va pas aller voler les vieilles caisses claires de James Brown des années 80. On va plutôt, enfin plutôt comme les rappeurs des années 80, on va pas aller voler les caisses claires de James Brown, mais on va plutôt refaire des sons en studio, c'est-à-dire qu'il va y avoir un batteur qui va arriver limite juste avec une caisse claire. On va enregistrer juste la caisse claire pour vraiment l'isoler. À partir du moment où elle est vraiment isolée, et ben là on peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que Teddy là il la remet dans un sampler, souvent une MPC, et ce qui permet de l'éditer à mort, c'est-à-dire que il peut carrément la couper à la milliseconde près, et évidemment il va mettre plein d'effets dessus parce qu'une fois qu'elle est très très isolée, très très sèche, on peut faire exactement ce qu'on veut. Alors là il va la compresser à gogo, évidemment la compresser ça veut dire écraser la dynamique pour le rendre le son encore plus sec et plus gros et encore plus claquant, parce que c'est ça vraiment qu'on cherche, c'est vraiment un truc qui rythme, qui rythme, qui rythme, et dans tout l'album on entend ça. Une fois qu'elle est vraiment très très sèche, cette batterie, on peut rajouter des effets. Il y a un effet années 80 qui est encore...
Le fameux
qui s'appelle le Gated...
Le fameux qui fait mal aux oreilles.
Ouais. C'est le Gated Reverb. Voilà, on l'a moins dans Dangerous, même si ça peut être utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, on met une reverb sur une caisse claire qui est déjà très, très sèche. On met une grosse, grosse reverb, donc un gros écho. Et on va couper cet écho brutalement, genre au bout d'une demi-seconde, ce qui fait un effet... Ça coupe vraiment quoi.
C'est chelou, ouais.
Il fait bien.
Avec une compression et des samples, ça donne un son finalement très très sec et beaucoup plus froid que les albums précédents. Et d'ailleurs, dans cet album, on a des morceaux où il n'y a quasiment pas de basse mélodique. Chose qui n'était pas le cas avec Quincy, parce que Quincy mettait beaucoup beaucoup de mélodies sur tout. Et des fois, on a juste des rythmes. Alors, avec les samples, ils s'amusent aussi un petit peu sur Dangerous et ils utilisent beaucoup de samples du quotidien, genre des klaxons, des bruits de verre, on l'entend souvent, des bruits industriels. Et il y a un morceau qui est fait avec des klaxons et des bruits de bagnole. On écoute ça tout de suite. Ça, c'est ce qui vit le plus dans cet album, en fait. Parce que ça prend vite la tête, les klaxons. Visiblement, Teddy aurait enregistré... là, tout sortirait de sons qu'il aurait enregistré sur une bagnole, des moteurs, tout ça. Et en fait, il fait un morceau... c'est pas non plus Aphex Twin, tu vois, qui va enregistrer des sons, mais c'est hyper nouveau à l'époque. Là, avec les années en plus, ça prend un petit peu plus la tête. Pour l'anecdote, à ce qui paraît, Teddy aurait même samplé le tigre de Michael Jackson, parce que Michael avait un tigre. On a parlé tout à l'heure du singe.
Faut savoir qu'il a un zoo, en fait, c'est ça?
Ouais, il a un zoo. Ouais. Alors, tu nous avais dit que le singe s'appelait
Bubble.
Bubble, ouais. Bah, son tigre, il s'appelle Thriller. Voilà.
Je savais pas ça.
Ouais, alors personnellement, alors là, je vais vraiment donner mon avis, mais je trouve que cet album, c'est vraiment un mix entre l'héritage du travail entre Michael et Quincy. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont créé ensemble dans ces trois énormes albums. Dangerous, c'est un peu sur la descente. Hein. Et le
plagiat de Janet Jackson par Michael Jackson.
Ouais, et l'apport de Teddy Riley qui a inventé toutes les New Jack. Donc, ce côté vachement plus urbain. Nous, on ne dit pas vraiment New Jack, on dit plus urban, R&B urban. Quoi. Et on l'entend bien, d'ailleurs, sur In the Closet. On a un couplet qui est méga New Jack. Genre Teddy Riley, et un refrain qui est finalement, selon moi, très très Quincy Jones. Pour la petite anecdote, là, la dame qu'on entend,
Mystery Girl.
C'est Mystery Girl, c'est Stéphanie de Monaco. C'est dingue.
Steph de Monaco qui chantait sur Comme un ouragan quelques années avant. Qu'est-ce qu'elle fout là?
On sait pas trop ce qu'elle fout là.
Je crois qu'au départ c'était Madonna qui était pressentie.
Ça devait être Madonna
sur cet album. Et en fait, Madonna n'a pas voulu parce que c'était un peu le combat de coq. Hein. C'était deux méga stars, forcément, ça allait pas s'entendre et du coup, ça a été très vite abandonné. Donc,
c'est logique que le King of Pop veuille s'adjoindre les services d'une princesse.
Oh. Ouais, c'était pas gagné d'avance. Hein. Surtout que c'est un petit, mine de rien, c'est quand même un petit peu mieux que ce qu'elle faisait à l'époque. J'ai rien contre la princesse, d'ailleurs, je la salue.
Elle nous écoute, assurément.
Fanny, si tu en regardes.
Pour conclure, parce que j'avais que 3 minutes, mais je les ai déjà dépassées, on peut dire qu'on retrouve pas que du Quincy et du Riley. Dans cet album, on retrouve plein d'autres styles. Alors, on a du rap, beaucoup de rap. D'ailleurs, c'est un petit peu, tu vois, dans ton générique, Manu, t'as mis Single Hallelujah. C'est un peu la mode dance, c'est-à-dire, il y a la nana qui chante et après, il y a le mec qui rappe, quoi, tu vois.
Ça
revient souvent dans cet album, c'était la mode à l'époque. Donc, on a du rap. On a aussi des guitares électriques, du hard.
Du hard rock.
Comme on disait à l'époque, avec Slash, qui est le guitariste des Guns. Et il s'en donne à cœur joie, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme style? On a un petit peu de gospel parfois et puis même un petit peu de musique classique sur l'intro de Will You Be There.
C'est ce que je disais tout à l'heure, cet album est complètement incohérent.
Mais c'est pour tout le monde.
C'est vrai, c'est
vrai. Tout le monde.
Mais mine de rien, je trouve qu'on a quand même quelques titres qui sonnent très très Michael, qu'on aura pu retrouver sur l'album d'avant parce que finalement, moi j'ai réécouté Bad pour savoir si Dangerous c'était vraiment une cassure et finalement j'ai réécouté les trois albums de Quincy et en fait. Je trouve que c'est finalement une lente évolution. Tout le monde se plaît à dire que c'est vraiment un son vraiment nouveau de Michael. Quand tu écoutes Bad, il y a déjà ces caisses claires qui sont hyper, hyper présentes, hyper rythmées. Il y a déjà des trucs qui font que la musique
sonne pas de nulle part, quoi.
Ouais, sonne plus moderne. Finalement, c'est le travail de Quincy qui a été poussé à l'extrême avec un autre producteur. Est-ce que cet autre producteur aurait pas beaucoup écouté Quincy dans sa jeunesse non plus? Je ne sais pas. En tout cas, quand tu écoutes Who Is It, tu te dis que ça aurait très bien pu être sur Bad. Et rien que pour ça, je trouve que l'album n'est pas à jeter et je l'aime toujours. Voilà.
Alors petit ajout là-dessus, il y a le titre Heal the World en fait qui commence, qui a été composé par le papa du chanteur de Toto.
Oui, voilà. Oui aussi. Moi, j'ai pas cité tout le monde, mais.
Et voilà. Et moi, c'est un titre que moi j'aimais beaucoup. Heal the World, c'est un truc vraiment qui m'a toujours marqué à fond.
Ton côté un peu cœur grenadine.
Mais ouais,
ça,
bien sûr. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Michael Jackson. C'était au début, c'était une cassette qui était dans le Walkman de ma sœur. C'était, je pense, sa première cassette. Et pour moi, mon premier kiff en fait sur un morceau de pop, quoi, avant des comptines ou quelque chose. Je devais avoir, je sais pas, 6 ou 7 ans à l'époque, et voilà.
Mais c'est vrai que je voulais pas en parler parce que j'avais pas le temps, mais au niveau des thèmes, Heal the World, ça rappelle un peu We Are the World. C'est vraiment le morceau engagé,
carrément.
Genre allez, on va, faites attention à la planète. Le morceau écolo, il y a aussi un morceau sur une personne qui a le sida et qui va bientôt mourir. Donc c'est des trucs qui sont quand même actuels. Et là, encore une fois, on touche à tous les styles de musique, mais aussi on touche aussi à tous les thèmes. C'est à dire que tout à l'heure, Olivia, tu nous as parlé de coming out, de éventuellement, tu vois, sur la sexualité de Michael. On va vraiment sur tous les terrains, c'est-à-dire qu'il faut vraiment balayer large.
Ouais.
Ça, c'est vrai que finalement, ça dénote un peu un moment de l'industrie musicale où faut faire du pognon et faut faire vraiment du spectaculaire, c'est-à-dire qu'on va toucher à tout, on va ramener toutes les stars, on va toucher tous les styles, on va parler de tous les thèmes et
en faire une star planétaire, quoi, vraiment.
C'est la définition du mainstream. Au sens propre du terme, quoi. Ça balaye de tous les côtés.
Alors,
ça plaira à tout le monde.
Ouais, ça plaira à tout le monde. C'est vrai, mais ils se donnent quand même les moyens de faire du mainstream
de qualité.
Et un message.
Ouais. Et après, on retrouvera, moi je trouve qu'après, quand t'as Britney et tout, c'est des stars un peu pareilles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pognon, beaucoup de pognon dans la production, dans l'image, dans tout. Et c'est un peu l'héritage, je trouve, genre Britney de Michael.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est In the Closet qui a été réutilisé pour Stay For You. En tout cas, je sais pas si c'est
exactement
le son, mais
ça
ressemble à fond.
Un peu, ouais.
T'as même aussi
on fera un épisode dessus.
Ouais,
hein.
T'as des petits medley qui sont faits sur YouTube. Je regardais ça tout à l'heure. C'est à s'y méprendre vraiment. C'est un album qui a marqué tout le monde, y compris la génération suivante et celle de Britney. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter, à réécouter cet album.
Moi, oui.
Toi, oui, on a bien compris. Mais effectivement, il y a un peu à boire et à manger là-dedans. C'est peut-être le dernier grand disque de Michael.
C'est pour ça que sont faits les best-of. Autant garder le meilleur de Michael et effectivement garder aussi l'image qu'on chérit tous de lui quelque part.
Parce que c'était quelqu'un d'énorme. voilà, c'est quelqu'un qui avait un énorme style, qui moi j'ai essayé aussi en voie de refaire des bouts de chorégraphie, je pense.
Attends,
que...
là dernièrement on...
Alors... Non, pas là.
Pourquoi cette émission n'est pas filmée?
J'ai, là dernièrement je travaillais l'épisode, je me suis dit c'est pas mal ce mouvement, je pourrais peut-être essayer de le refaire.
Alors moi pour l'anecdote, alors malheureusement il n'y a pas l'image, mais Fanny a quand même les chaussures de Michael Jackson au pied.
Elle a mis des mocassins,
elle a des
ce
mocassins
soir.
Sans chaussettes, sans chaussettes,
c'est dommage. Ouais.
C'est vraiment ouais. dommage qu'on
c'est
puisse
là,
pas vous les montrer.
C'est les GH Bass, hein. la marque des mocassins de Michael Jackson.
C'est très, très grande professionnelle en tout cas.
Voilà, du coup, je ne sais pas aujourd'hui qui peut reprendre le flambeau de Michael Jackson, parce que voilà, la star est déchue, hein, elle est même décédée. mais je ne sais pas, je ne sais pas aujourd'hui qui est capable, en fait, bah, qui a une aura, une telle aura.
Bah, tu regardes, en fait, dans la lignée, tu as Britney, et puis peut-être aujourd'hui Lady Gaga, tu vois, là où il y a autant de pognon, pour faire des gros albums comme ça, pour vraiment travailler l'image, moi je dirais que c'est elle. Je ne dis pas que je suis fan de Lady Gaga, hein, loin de là. Hein. Et, ou Katy Perry, tu vois, j'aime bien les sons de Katy Perry. J'aurais pas dû dire ça.
On dévoile tout ce soir. C'est déjà la fin de cet épisode sur l'album Dangerous de Michael Jackson. On avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90 avec nos invités, Fanny Gignès.
Merci à tous.
Olivia Goda.
Merci Manu.
Et Greg Cook.
Merci.
Qu'on retrouve sur 2 heures de perdu.
2 heures de perdu et tout frais, enfin pas tout Fréquence Moderne, mais on a d'autres émissions. On a EPO, qui est l'émission qui traite de sport, et Culture 2000, l'émission qui traite de culture, 2000 ans de culture. Voilà, donc que je vous conseille évidemment, hein, c'est nos émissions.
Et qu'on aime beaucoup, beaucoup. Voilà, et ben merci beaucoup à toi encore, Greg Cook, de
vous
avoir accueilli ce soir.
C'est pour défendre Michael, je serai toujours là. Enfin, peut-être pas au tribunal.
Nous, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé en nous laissant un commentaire sur iTunes avec des petites étoiles. On attend vos suggestions et les disques qui vous ont marqué dans les années 90. Et on se quitte avec Heal the World et on fait... plein de gros poutou poutou à tous.
Bye bye.
Bye bye. Bye.
À bientôt.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Joyful gift.